Un de mes proches, appelons-le M, pour préserver son anonymat et puis aussi notre amitié, a voulu savoir à quel sujet j'allais consacrer ce premier débat de midi. Quand je lui ai dit qu'on allait parler de menstruation, il a d'abord froncé le nez, puis il a adopté un air un petit peu inquiet avant de me demander si c'est pas un peu dégueu quand même de parler de règles à l'heure où les auditeurs sont à table. 30 secondes, c'est le temps qu'il m'a fallu pour réemboîter ma mâchoire. Une minute, c'est le temps qu'il m'a fallu pour retrouver sur YouTube la pub, vous savez, qui vante les mérites d'un traitement anti-mycose du pied qui, elle, est diffusée à l'heure du dîner sans que ça n'émeuve personne. 750 000 litres, c'est la quantité de faux sang utilisée dans le remake du film d'horreur Evil Dead en 2013 que le dit M a vu deux fois sans faire son dégoûté. 1, c'est le nombre de fois une pub pour protection périodique a montré du liquide rouge pour représenter le sang des règles. 5, comme la cinquième position à laquelle se placent tampons et serviettes. Parmi les déchets les plus fréquemment échoués sur les plages, ce sont des chiffres sérieux émis par la Commission européenne. 97 563 fois, c'est le nombre de fois où dans sa vie, une femme va entendre « mais t'as tes règles ou quoi ?» parce qu'elle a osé se montrer un petit peu revêche. Et ça, ce sont des chiffres pas sérieux du tout, émis par moi-même, à vue de nez et par expérience. 5 fois, il y a 5 fois plus d'études scientifiques consacrées au dysfonctionnement érectile qu'au syndrome prémenstruel. 0 pour sans rancune à l'égard de mon ami M qui nous écoute. J'espère 60 minutes, c'est le temps qu'on va consacrer à ce sujet majeur qui reste clivant et pas entièrement défriché. On parle règles avec mes invités jusqu'à 13h.
Le débat du midi. Nadia Dam sur France Inter.
Et j'accueille mes 3 invités qui sont en direct dans le studio et un 4e qu'on joindra par téléphone tout à l'heure. Dominique Mesmin, bonjour.
Bonjour.
Vous avez co-écrit et co-réalisé avec Camille Boulle la série documentaire Bon Sang qui est diffusée sur France TV/. C'est la plateforme numérique de France Télé qui s'adresse plutôt aux jeunes, aux 15-30 ans, c'est ça?
Tout à fait.
Et ce sont donc 10 épisodes de 5 à 6 minutes, des témoignages de femmes essentiellement. J'accueille également Marine Fabre, bonjour, bienvenue.
Bonjour.
Vous êtes responsable marketing de la marque Nana, qui est donc une marque de protection hygiénique qui a beaucoup fait parler d'elle, puisque c'est Nana, et c'était l'an dernier, qui a osé montrer du liquide rouge et non bleu canard WC dans l'une de ses pubs. C'était l'an dernier, c'était une campagne qui était uniquement en ligne, pas diffusée à la télévision. Simplement, juste une question sur ce sujet-là à tous les deux. Les règles, on peut en parler de manière cash, très claire, uniquement sur Internet et pas à la télévision. Là, en l'occurrence, c'est pas un documentaire qui a été diffusé sur France 5 et pas une publicité qui a été diffusée à la télévision.
Les règles, on pense qu'il faut en parler partout et le plus simplement possible. On a effectivement démarré avec cette campagne Blood Normal dont vous avez si bien parlé en 2018, uniquement online. Mais voilà, notre objectif, c'est d'en parler largement. En 2019, on va aller un cran plus loin. On va parler d'un sujet qui est finalement lié aux règles, qui est le tabou de la zone intime, de la vulve.
De la vulve, c'est comme ça.
De la vulve, exactement. Avec une campagne qui s'appelle Viva la vulva.
D'accord.
Et qui arrive en télé.
On va y revenir, mais simplement, Dominique Mesmin, est-ce que vous avez sollicité, vous, des grandes chaînes, France 2, Arte, peu importe, sur ce sujet, que vous ont dit non, on ne parle pas de règles chez nous?
On a sollicité à peu près tout le monde. Avec Camille Boulle, on a travaillé sur ce sujet depuis quelques années, pratiquement 3 années. On a approché la majorité des émissions et la majorité des chaînes. Et en fait, si vous voulez, on n'a pas forcément tout le temps eu des réponses franches, mais au final, personne n'en veut. Et personne n'en voulait. Ça pouvait aller de non, mais vous n'y pensez pas, ou c'est pas vraiment pour nous. Donc c'est des phrases un peu paravent qui permettent de signifier un refus sans en préciser la nature. Mais non, sur des émissions en télévision hertzienne avec des audiences importantes, non, personne n'en veut. Ça c'est sûr.
C'est encore un peu trop tôt visiblement. Ma 3e invitée, Taous Merakchi, bonjour. Vous êtes également connue sur les internets sous le nom de Jacques Parker. Vous avez créé en 2015, le blog Passion Menstru qui a abouti à la publication d'un livre, Le Grand Mystère des Règles, publié chez Flammarion en 2017. Il faut rappeler que c'était une année charnière 2017, puisqu'il y a plusieurs livres en France, notamment au moins 4 livres qui ont été publiés sur le sujet, sur les règles, avec toujours cette volonté de démystifier et que la question a alors été assez largement médiatisée. Puis vous êtes aussi l'autrice du podcast Mortel, qui est produit par Nouvelles Écoutes, qui, comme son nom l'indique, parle donc de mort. C'est quoi le sujet le plus tabou, le sujet qui jette le plus un froid dans un dîner? C'est de parler de règles ou parler des morts, de la mort?
Oh, les règles.
les règles. Avant la mort.
Ah oui, oui. Même si la mort, il y en a qui sont vraiment hyper réfractaires et que ça met vraiment super mal à l'aise, mais c'est des gens pour qui c'est pas rationnel, c'est presque phobique, alors que les règles, c'est vraiment automatique, peu importe le niveau d'avancée qu'on a, de pensée sur les règles, il y a toujours un truc de... Ah oui, d'accord, on va y aller. Bon.
Y compris de la part des femmes, c'est-à-dire oui, pas oui. que des hommes ah, qui oui, prennent l'air dégoûté comme en MIM que ouais, je citais ouais. tout à l'heure, c'est aussi des femmes qui peuvent avoir des réactions.
Absolument.
Oui, vous l'avez tous constaté.
Complètement.
Et puis on retrouvera plus tard par téléphone Frédéric Jossinet, triple championne d'Europe de judo, quadruple championne de France et coordinatrice du plan fédéral de féminisation dans le foot pour évoquer le tabou des règles dans le milieu sportif. Alors je vais être totalement transparente, on risque d'avoir peut-être des difficultés à la joindre parce qu'elle nous a informé ce matin que le travail avait commencé, c'est-à-dire qu'elle risque probablement d'accoucher aujourd'hui. On la soutient très fort, c'est pas totalement déconnecté du sujet du jour. En attendant, on écoute le premier disque de ce débat de midi, c'est Clara Luciani et le titre Bovary, et on se retrouve pour parler de ce débat sanglant. Oui, j'étais obligée de la faire.
Je sais pas si je suis encore vivante. Sinon, quelle est cette douleur qui me hante? Mon corps se balance au-dessus d'une mer immense, mais je m'accroche à vous. Il ne me reste plus que quelques souvenirs d'enfance qui déjà deviennent flous.
Il est midi 15 sur France Inter, c'est le débat de midi consacré aux règles, une émission préparée par Anna Massardier et Camille Kaufmann.
C'est un sujet dont on parle peu. Le magazine L'Équipe a décidé d'en faire sa une et son dossier central, une enquête de 8 pages sur les règles dans le sport féminin.
Dame Nature, pas maintenant. Je t'apporte ton cadeau mensuel, chérie, tes règles. Tu ferais mieux d'arrêter de danser.
La semaine avant mes règles, c'est la dégringolade. C'est le moment où j'ai le boule de Kinka, le ventre enceinte, les jetards de mes 14 piges.
Écoulement périodique de sang qui provient de l'élimination de la couche superficielle de la paroi interne de l'utérus. C'est ça ou pas?
Il y a des morceaux de ce qu'on appelle l'endomètre qui est collé à l'utérus. C'est donc de la muqueuse qui se détache en fait et qui tombe de notre utérus. Tous les putains de mois.
Ouais. Puisque là, elle est énervée, elle a ses règles, hein.
12 fois par an, régulièrement, elle se tord de douleur, se mord les doigts de son
la douleur des règles, c'est encore plus tabou. C'est-à-dire qu'on a mal, mais on ne doit pas le dire, il faut le garder pour nous, et c'est normal.
Dominique Mesmin, on va soulever un malentendu tout de suite, un possible malentendu. Je pense qu'on va avoir des réactions de gens qui vont dire pourquoi est-ce qu'on donne la parole à un homme sur un sujet qui est pourtant considéré comme, considéré en tout cas pas par tout le monde, mais comme exclusivement féminin. Est-ce qu'on peut rappeler déjà qu'il n'y a pas que les femmes qui ont leurs règles, ça peut aussi concerner des hommes trans, et que toutes les femmes n'ont pas leurs règles. Mais en quoi est-ce que les règles concerneraient aussi les hommes, et en quoi est-ce que j'ai eu raison de vous inviter aujourd'hui?
Bah écoutez, il y a plein de raisons. Si vous êtes en couple avec une femme, ça peut vous concerner par ricochet. Il y a à peu près 500 ou 600 millions de femmes qui ont leurs règles tous les jours. Après, vous avez le droit, étant un homme, de vous intéresser à des problématiques féminines. En l'occurrence, cette série, elle n'est pas écrite à la première personne. Moi, je suis journaliste, donc je m'intéresse à plein de sujets pour lesquels, à ce moment-là, je suis pas forcément légitime parce que je les ai pas ressentis ni dans mon corps, ni dans mon comportement, etc. Depuis tout ce que j'ai fait depuis le début. Donc voilà, on peut tout à fait avoir. C'est un sujet qui est passionnant, c'est un sujet qu'on peut aborder par de nombreux versants avec plein de facettes très différentes. Et en ce sens, moi, il m'a interpellé, il m'intéressait journalistiquement et d'un point de vue de sociétal. Voilà, mais il n'y a pas d'ambiguïté, c'est pas la première personne me concernant.
Taous Merakchi, en quoi est-ce que c'est pas un sujet exclusivement féminin, les règles, et qui doit pas être cantonné précisément à la presse féminine notamment?
Bah parce que comme ça a été dit, voilà, toutes les femmes n'ont pas leurs règles et toutes les personnes qui ont leurs règles ne sont pas forcément des femmes déjà, et effectivement, comme Dominique le disait, a priori, tout le monde côtoie des personnes menstruées à un moment dans sa vie, que ce soit par parentalité, par couple, par même des collègues, tout ça dans la vie, des amis, des potes, enfin partout, tout le temps, on côtoie des personnes menstruées. Et il y a toujours à un moment donné, si on est dans une assemblée où il y a des personnes qui ont un utérus fonctionnel dans la salle, où il y en a au moins un qui saigne, a priori. Donc c'est quand même assez intéressant de se renseigner sur la question, d'en avoir conscience, et surtout parce que c'est un tabou qui tue, c'est un tabou qui isole, c'est un tabou qui fout la honte, c'est un tabou qui fait du mal. Et a priori, en tant qu'être humain, bah, on est pour que tout le monde soit à peu près heureux et se sente bien dans son corps. Donc ça fait partie des combats qu'on devrait avoir, si qu'on ait un utérus ou non. Quoi.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça n'a pas toujours été le cas, ce que vous décrivez là. Vous le racontez dans votre livre, hein, vous avez une approche historique de tout ça. Et vous dites qu'il y a eu une période où le saignement menstruel s'était considéré comme un signe de force, que les hommes ont même cherché à le reproduire. Il y a une légende qui dit, par exemple, que les chevaliers trempaient leur épée dans le sang menstruel avant d'aller combattre. Mais qu'est-ce qui a changé pour en être arrivé à ce niveau de désinformation, de honte que vous décrivez? C'est quoi la racine du tabou? Puisqu'il fut un temps où avoir ces règles, c'était cool et on pouvait le dire.
Alors, je pense que le seul moment où ça a été vraiment cool partout, c'était vraiment à l'époque de la préhistoire où les premières divinités étaient féminines et c'était des déesses de fertilité, de fécondité. Donc forcément, c'était considéré comme c'était considéré comme le super pouvoir ultime. Et je pense qu'à un moment, bah, ça a fait peur parce que c'est une puissance qui est terrifiante d'avoir le droit de vie ou de mort, parce que concrètement c'est ce qu'on a, et c'est ce qu'on nous prêtait en tout cas comme pouvoir. C'est pas pour rien que la chasse aux sorcières, l'inquisition, tout ça, c'était aussi basé là-dessus. C'est les femmes ont le savoir et le pouvoir, c'est flippant, donc du coup on va les cramer, c'est mieux. Et je pense que les règles, en fait, ça part de là aussi. C'est juste que comme n'importe quel tabou et n'importe quelle peur, n'importe quelle phobie, c'est de l'incompréhension et donc du rejet. Et ça a été utilisé contre nous très tôt, parce que c'est le meilleur outil pour nous rappeler notre faiblesse et notre infériorité. Alors que effectivement, si on le prend d'un point de vue biologique et historique, on peut aussi trouver un truc très empouvoirant, on dit maintenant, c'est ça?
Empouvoirant, oui, par écoute, c'est comme ça.
Dans le fait de saigner, de rester debout et de pouvoir donner la vie potentiellement si on en a envie et si on en est capable. Mais ouais, c'est en fait, il y a toujours eu cette espèce de paradoxe entre waouh, c'est trop puissant, c'est extraordinaire, ça a des vertus de dingue. Mais peut-être que potentiellement ça peut nous tuer, nous rendre malades. C'est, même à l'époque où on pensait que ça pouvait soigner la peste et donner de la force, c'est la même époque où on pensait que ça pouvait pourrir les récoltes et tuer le gibier et faire tourner le vin, etc. Donc il y a toujours eu ce truc un peu entre deux de c'est un fluide qui a trop de pouvoir, ça donne potentiellement trop de pouvoir aux femmes, donc on va plutôt l'écarter et miser sur le fait que c'est nocif.
Marine Fabre, ces légendes, ces mythes que vient de décrire Taous Marouchi, est-ce que c'est quelque chose que vous avez en tête chez Nana au moment où vous brainstormez pour faire des publicités? Est-ce que vous avez en tête ces légendes et est-ce que vous faites une tentative pour les déconstruire, ces clichés-là?
C'est effectivement des clichés qu'on a en tête quand on travaille au quotidien. C'est des clichés qui existent encore parce que le corps de la femme est finalement méconnu, aussi bien du côté des hommes que des femmes. Et c'est pour ça qu'on doit en parler, c'est pour ça qu'il faut libérer la parole. Et c'est ce qu'on avait en tête finalement quand on a lancé cette campagne Blood Normal.
Rappelez exactement quoi ça consistait. Alors, c'était en France et au Royaume-Uni également.
C'est en France et au Royaume-Uni, effectivement. C'est la première fois qu'on va utiliser le rouge pour parler des règles, pour montrer les règles telles qu'elles sont. On arrête avec le liquide bleu qui finalement ne correspond absolument pas à la réalité des choses. Et voilà, l'idée c'est de montrer que c'est quelque chose de positif, que c'est quelque chose de normal et que les règles, ça arrive à toutes les femmes, à certains hommes, et qu'on doit en parler pour faire en sorte que le débat et que la parole se libère.
Est-ce que c'est la même volonté qui vous a animé en 2015 quand vous avez fait une campagne sur les shred pads, les soi-disant destructeurs de tampons, qui est une campagne de marketing basée sur le mensonge. Ça s'appelle un canular.
Tout le monde ne connaît pas cette campagne. Décrivez.
Madame Fabre va le faire, peut le faire dans le détail. Je compléterai si besoin.
Oui, vous compléterez si besoin. Alors, je tiens à rappeler que cette campagne était en fait un teaser. Il ne s'agit en rien d'une campagne marketing et que notre objectif n'était absolument pas de mentir aux consommatrices.
Vous avez envoyé un communiqué de presse à la presse. Ça a été fait par l'agence BBDO. La directrice de la com s'appelait Lorraine Weber. Il y a un communiqué de presse qui est parti à tout le monde. Vous avez fait, en fait, il y a un article du Huffington là-dessus. Vous avez fait une campagne qui était pour faire buzzer.
Voilà.
Donc, vous avez quand même des précédents chez Nana en termes de communication. Moi, je m'interroge sur un truc. C'est que, effectivement, vous avez laissé tomber le bleu de méthylène pour mettre un liquide rouge. Est-ce que c'est vraiment purement de la com ou pas? Est-ce que c'est du féminisme washing? Donc c'est un petit peu surprenant votre façon de communiquer.
Oui, bien sûr. Je peux pas vous laisser dire que on prend finalement la vague de la tendance. Le caractère transgressif de la marque, il existe depuis le début, depuis 1981, quand on a été les premiers à parler, à montrer finalement des serviettes à la télévision. Je vous rappelle que c'était interdit avant 1970. Donc je peux pas vous laisser dire que c'est finalement de l'opportunisme de notre part. Montrer les règles telles qu'elles sont en digital comme on l'a fait en 2018. Voilà, ça fait partie de notre mission qui est de briser les tabous autour des règles. Alors effectivement, c'est de la communication, mais on est une marque.
Et puis on va pas faire le procès de Nana de toute
façon.
Il y a pas que Nana, on va parler d'autres marques. Est-ce que vous avez noté malgré tout un changement dans la manière dont la publicité parle et montre les règles, pas qu'à l'échelle française, mais aussi à l'échelle internationale? Est-ce que effectivement on se pince un petit peu moins le nez? Est-ce qu'il y a de moins en moins, il y a plus ces filles qui font du roller en juste au corps blanc comme il y a eu beaucoup dans les années 90? Est-ce qu'il y a pas un effort malgré tout, que ce soit du féministe washing, c'est-à-dire se faire passer pour féministe ou pas?
Oui, non, mais complètement. Et je pense qu'il y a tout le monde a à y gagner. Effectivement, les marques ont quelque chose à y gagner parce que ça redore leur image. Exactement, parce que ça rapporte de la thune, ça fait du buzz, etc. Mais nous aussi, on a quelque chose à y gagner en tant que public et en tant que consommateur et consommatrice, parce que on se retrouve face à quelque chose qui nous parle un peu plus. Et faut pas se leurrer sur le fait qu'il y aura toujours de la communication, il y aura toujours de la pub, et on essaiera toujours de nous vendre des trucs. Et moi, je préfère qu'on essaie de me vendre quelque chose en prenant moins pour une débile et en parlant plus clairement de ce qui est en train de se passer, plutôt qu'en me faisant des trucs de violon en me disant ça va sentir la vanille dans ta culotte. Je m'en fous, j'ai pas envie d'avoir des parfums dans le slip, et c'est moi tranquille, je sens très bon, tout va bien. Et donc oui, je pense qu'il y a vraiment eu un changement. Il y avait eu une campagne aussi, je sais plus quelle marque c'était, mais qui avait montré des sportives qui saignaient, qui étaient vraiment toutes en action, qui montaient donc du sang, de blessures, de sport, pour faire le parallèle entre pourquoi celui-ci serait plus choquant qu'un autre, pourquoi ce serait moins un sang fort, un sang puissant que celui-là. Et oui, derrière, il y a une volonté de vendre, il y a une volonté de faire le buzz. Mais moi, ça m'a filé des frissons de voir ça, de voir ces images-là, de voir ces images de sportives et de femmes fortes, et de me dire, bah voilà, je préfère qu'on me parle des règles en me disant c'est un truc de guerrière, même si c'est du mytho et qu'il n'y a pas une épée qui va tomber du ciel d'un coup et que je ne vais pas pourfendre le patriarcat grâce à une marque de tampon. Mais ouais, je trouve ça plus intéressant de se caler sur cette mouvance-là plutôt que de freiner comment on dit déjà ?
Les quatre fers.
Les quatre fers, c'est ça, merci.
Marine Fabre, on parle aussi, quand on parle de publicité de tampons, de ce qu'on appelle le marketing de la honte. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, une question que je me suis toujours posée, pourquoi est-ce qu'il est en question d'odeur dans les pubs pour tampons, et est-ce que les règles, ça sent pas bon, et est-ce que ça mérite effectivement des petits désodorisants dans les produits hygiéniques?
Alors, sachez que le parfum, il n'y en a pas forcément dans toutes les serviettes ou dans tous les tampons. Il y a effectivement des gammes qui sont parfumées parce que certaines consommatrices souhaitent avoir des serviettes parfumées. Et les règles, effectivement, ça ne sent pas mauvais. Les règles, il y a une petite odeur lorsqu'elles sont en présence de l'air, parce qu'il y a une oxydation. Mais sachez en tous les cas que 100% de nos produits ne sont pas parfumés et que certaines consommatrices cherchent des parfums, et donc on a des produits qui y répondent.
Dominique Mesmin, ce marketing de la honte, vous l'avez interrogé dans votre documentaire. Que vous disent les femmes de ces messages, effectivement, qui les incitent à être pudiques, à être discrètes, à se faire toute petite et à sentir bon? Qu'est-ce qu'elles vous disent?
Il y a plein de positionnements qui sont très différents. Si vous voulez, il y a des femmes qui vont accepter des protections, je dirais, traditionnelles. Il y a aussi des mouvements très importants de femmes qui vont les refuser. Il y a une opacité sur les composants, y compris chez Nana.
On va y revenir.
Il y a une opacité qui fait que beaucoup de personnes refusent dorénavant d'utiliser des tampons. Donc il y a plein d'alternatives. Il y a des tampons bio, il y a ce que vous voulez. Il y a des culottes qui sont lavables, etc. Donc, si vous voulez, je pense qu'il y a de plus en plus de personnes, dans tous les cas parmi celles que j'ai rencontrées, qui se méfient et qui veulent revenir à des choses où il y a une relative transparence et limpidité.
Plus naturelle également.
Plus naturelle. Donc, ça peut aller jusqu'à personnes qui font du free flow.
Free flow, décrivez.
Qui consiste à retenir son sang et à l'expulser comme de l'urine.
D'accord. On visualise, oui, effectivement. Mmh. Et c'est possible de le faire. Quand on est une femme, on peut contrôler son
flux
menstruel.
C'est pas du tout, c'est pas forcément recommandé, mais pas mal de femmes le font.
Taous Merakchi?
Oui, non, moi, ça, c'est un truc que, justement, j'ai fait des recherches là-dessus parce que je m'étais interrogée et qu'il y a plein de personnes qui me posaient la question quand j'avais mon blog Passion Menstru. Et les seules personnes dont j'ai entendu des témoignages assez concluants sur la question, c'est des personnes qui ont une petite distance à parcourir entre leur bureau, enfin, leur poste de travail et les toilettes, et ont un flux qui est quand même assez... assez tranquille.
Oui, moi,
je sais que
pas accessible à tout le
voilà.
monde.
Voilà. Moi, je suis freelance et je travaille dans mon canapé, mais clairement, je pourrais pas pratiquer le flux instinctif libre. Ça me gêne un peu, mais là, c'est vraiment une question personnelle dans le sens où ça revient à une pleine conscience de ces règles, alors que je préfère quelque chose qui me permet pas de les oublier, mais au moins de les vivre vraiment tranquillement et de pas vivre sous la contrainte de mes règles. Donc c'est pour ça que j'utilise des culottes menstruelles notamment, parce que je trouve que c'est le truc le plus libérateur du monde. Pour moi, vraiment, encore une fois, c'est très personnel. Et je trouve ça un peu dommage d'être dans un état d'esprit où pendant ces règles, on doit sans arrêt être en conscience de quand ça coule, est-ce que ça va couler, est-ce qu'il faut que j'y aille. Non, moi je veux juste pouvoir vivre ma vie, et si ça coule, ça coule, si ça coule pas, je m'en fous, ça change rien à mon quotidien. Mais encore une fois, ça c'est personnel, et le plus important dans les règles, c'est que tout le monde ait accès au même nombre d'informations et accès à la même documentation, et que chacun et chacune puisse faire son choix en fonction de son mode de vie et en fonction de ses préférences et de son corps, en fait. Et je pense que c'est ça le plus important, c'est vraiment une communication globale sur toutes les possibilités qui existent. Et après, bah, c'est un buffet, chacun choisit, et puis on peut changer d'avis. Les cycles changent au fur et à mesure de la vie, de toute façon. Donc la vie change, il y a plein de choses qui font qu'on va changer de méthode d'un âge à un autre. Donc je trouve ça vraiment important juste de communiquer sur la question sans jugement et sans imposer quoi que ce soit.
Mais Marine Fabre, comment est-ce que les marques de protection hygiénique ont anticipé ou réagissent à ces nouvelles alternatives qui s'offrent aux femmes? On parlera de la cup également tout à l'heure. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez anticipé, et est-ce que vous essayez de raccrocher les wagons en proposant vous-même vos cups et vos produits alternatifs?
Alors c'est évidemment quelque chose que l'on prend en compte. Je tiens simplement à rappeler qu'aujourd'hui, il y a 12 millions de femmes en France qui utilisent des serviettes. Donc on reste quand même sur une offre qui répond à un vrai besoin. Les tampons aujourd'hui, c'est 4 millions d'utilisatrices tous les ans. Donc, comme le disait très justement Taous, chaque femme a un cycle différent et donc chaque femme doit pouvoir trouver le produit qui lui correspond. Et nous, aujourd'hui, notre objectif, c'est vraiment de proposer des serviettes qui répondent le plus possible aux besoins des femmes.
Dominic Mesmin, ce marché des protections périodiques, il est absolument colossal. En France, ça représente 423 millions d'euros. Et puis aussi le développement de ce qu'on appelle la femtech, c'est-à-dire les nouvelles technologies pour les femmes. Il y a des applis, un nombre incalculable d'applications sur smartphone, voilà, pour gérer ces règles. Est-ce que c'est un marché forcément plus vertueux et plus transparent que celui plus traditionnel des protections hygiéniques? Est-ce qu'on peut faire confiance à une appli créée dans la Silicon Valley pour donner des informations liées à son corps et gérer ces flux menstruels?
Disons qu'en utilisant une appli, vous avez beaucoup moins de risques que d'utiliser un tampon dans l'absolu. Donc après, effectivement, il y a tout le temps le problème des données informatiques, les données des applis, etc. Il y a eu des précédents, il y a des cas, effectivement.
Un cas récent, hein, où effectivement on s'est rendu compte que les informations étaient récupérées.
Vendues. Et ces informations-là en alimentaient d'autres, déjà sur une espèce de portrait robot de certains utilisateurs de réseaux sociaux, etc. Donc ça venait compléter des informations qui existaient déjà. Ouais, donc ça, forcément, ça peut être dangereux. Les applications, il en existe à peu près 250. Il y a un salon à New York qui est sur la femtech et qui a une partie assez conséquente sur les monstres tech. Il y a pas mal de pontes de la Silicon Valley qui investissent. C'est une nouvelle zone d'investissement, donc avec visiblement des possibilités de rentabilité. Donc je connais pas forcément ce qui les anime, c'est peut-être tout simplement un opportunisme de business, mais des applications comme
Alors juste soyons un peu pédago pour les hommes aussi qui nous écoutent et qui connaissent pas nécessairement ces applis. Elles servent à quoi? Qu'est-ce qu'on y met? Quelles informations on donne? Comment est-ce que ça fonctionne? À quoi ça sert?
En fait, vous rentrez toutes les données ou plusieurs données qui concernent vos règles et ça vous permet aussi, ça vous permet de gérer vos règles, d'anticiper, ça vous permet de par ricochet de voir quand est-ce que qu'il y a ovulation, etc. Donc bon, il y a toutes sortes entre Glow qui est une application indienne et
Clou,
qui est une application fabriquée par une allemande de Berlin. Elles sont différentes, mais finalement, il n'y a pas une énorme variété entre toutes ces applications.
Taous Merakchi, est-ce qu'il faut se réjouir du fait que les nouvelles technologies s'intéressent enfin à la santé des femmes ou au corps des femmes, ou est-ce qu'il faut être un petit peu méfiant?
Bon, je pense un peu des deux, comme avec chaque innovation, enfin, sans partir dans des délires Black Mirror et compagnie. C'est vrai que
Black Mirror, voilà. Série d'anticipation
sur les dégâts possibles de la technologie, les débordements possibles.
Dystopie.
Voilà. Et effectivement, il y a une espèce de parano ambiante en ce moment où on est tous entourés d'objets technologiques et d'applications et ce genre de trucs. Et en même temps, on a conscience que nos données sont récupérées sans trop qu'on sache pourquoi. Il y a des procès, il y a des trucs dans tous les sens qui sortent. Il y a un documentaire qui vient de sortir sur Netflix à ce sujet-là. Donc, et en même temps, je me dis, bon, est-ce que ça m'importe beaucoup que l'État sache quand j'ovule? A priori, on n'est pas encore dans The Handmaid's Tale, on n'est pas dans une dystopie.
Là, c'est avant la série, je traduis, hein, beaucoup d'anglicisme.
On n'est pas encore dans une dystopie où, effectivement, le gouvernement a droit de regard sur ce qui se passe dans mon utérus. Donc, je me dis, pour l'instant, ça va. C'est peut-être très naïf de ma part. Mais en tout cas, je suis très contente d'avoir une application qui, quand j'ai mal à la tête, ou quand j'ai des crampes, ou quand j'ai un saut d'humeur, m'explique tout de suite pourquoi je suis dans cet état-là. Je regarde l'application, je fais « Ah, bah oui, je suis con, évidemment. » Voilà. Je trouve ça intéressant. Je trouve que ça offre plein de possibilités, que c'est encore une prise de conscience de son corps et prendre l'habitude d'être à l'écoute de son corps et de se surveiller, de s'écouter et de mieux comprendre ce qui se passe. Parce que moi, c'est en partie grâce à ça que j'ai compris que je ressentais physiquement mon ovulation. Je savais de quel ovaire j'ovule. Maintenant, je sais, mais je savais pas ce que c'était que cette douleur avant ça, quoi.
Il est midi 35 sur France Inter. Tous les mêmes. C'est pas moi qui le dis, c'est Stromae.
Tous les hommes et tous les mêmes. Macho, mais tu prends de ma vie est infidèle. Si prévisible, non, je ne suis pas certaine que plus que tu le mérites. Vous avez de la chance que vous aime. Dis-moi merci. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain rêve. Cette fois c'était la dernière. Tu peux croire que c'est qu'une crise. Mate une dernière fois mon derrière. Il est à côté de mes valises. Tu diras au revoir à ta mère. Elle qui t'idéalise. Tu ne vois même pas tout ce que tu perds. Avec une autre ce serait pire. Quoi toi aussi tu veux finir maintenant. C'est le monde à l'envers. Moi je le disais pour te faire réagir seulement. Toi tu pensais. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain rêve. Facile à dire, je suis gnangnan. Et que j'aime trop les blablabla. Mais non, 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 c'est important. Ce que t'appelles les ragnagnas. Tu sais, la vie, c'est des enfants. Et comme toujours, c'est pas le bon moment. Ah oui, pour les faire, là, tu es présent. Et pour les élever, y'aura des absents. Lorsque je ne serai plus belle. Ou du moins au naturel. Arrête, je sais que tu mens. Il n'y a que Kate Moss qui est éternelle. Moche ou belle,
c'est jamais bon.
Bête ou belle,
c'est jamais bon.
Belle ou moi,
c'est jamais bon.
Moi ou elle,
c'est jamais bon.
Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain rêve.
La programmation musicale du débat de midi est signée Elsa Béranger.
Le débat du midi, Nadia Dam sur France Inter.
On a énormément de réactions sur Twitter et sur la page de l'émission. Des réactions assez mitigées. Je voulais quand même vous signaler qu'il y a effectivement, comme je le prévoyais et comme mon ami M dont je vous parlais, des gens qui trouvent ça absolument dégoûtant de parler de règles à la radio à midi 38. Qu'est-ce que vous pouvez leur répondre, Marine Fabre? Est-ce que c'est dégueu de parler des règles à la radio?
Bah, ça nous montre simplement que le tabou est encore là. Mais de la même manière que on parle d'hémorroïdes ou de diarrhée, comme vous le disiez, à la télévision, on ne voit pas pourquoi il ne serait pas normal de parler à la radio de règles à midi.
Est-ce que vous pouvez entendre, malgré tout, je me fais un peu l'avocat du diable, qu'il y ait des gens qui puissent être, oui, un peu gênés, un peu dérangés d'entendre parler de flux menstruel, de d'écoulement, etc. Des gens que ça dérange, que ça dégoûte. Est-ce qu'ils n'ont pas le droit, après tout?
Ils ont complètement le droit, mais je pense que ce qui serait constructif, c'est qu'ils se posent la question de savoir par quoi ils sont dégoûtés.
C'est-à-dire?
Bah, qui s'interpellent eux-mêmes et qui cherchent à savoir qu'est-ce qui les dégoûte, parce que la solution est là, finalement. La plupart du temps, c'est une levée de bouclier, mais les gens sont souvent incapables de préciser qu'est-ce qui les dégoûte dans les menstruations. Donc, ça serait intéressant que, voilà.
Alors, il n'y a pas que ça, heureusement, comme réaction. On a énormément d'auditeurs qui voudraient parler des coupes menstruelles, des alternatives qu'on évoquait tout à l'heure. Je cite par exemple Corinne. Pourquoi concevoir des tampons et des serviettes mauvaises pour la santé et pour l'écologie comme protection standard? Vive la cup. Marine Fabre, il y a eu quand même un débat autour de la composition. Il est toujours actuel d'ailleurs, ce débat de la composition des protections hygiéniques, que ce soit des tampons ou des serviettes accusées de contenir des pesticides et autres substances nocives. Et accusé surtout de ne pas de c'est pas écrit, c'était pas écrit sur les boîtes. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui a changé?
Déjà, la première chose qu'il est important de préciser, c'est de dire les serviettes et les tampons, c'est dangereux pour la santé. Non. Les serviettes et les tampons, ce n'est pas dangereux pour la santé. Le rapport qu'a rendu les autorités en juillet dernier montre que les protections hygiéniques sont sans danger pour la santé des femmes. Donc ça, c'est quand même très important qu'on en revienne à ça.
Et, je vous coupe, mais il y a eu un cas très médiatisé, c'est ce qui a fait qu'on en a parlé. C'est une jeune américaine qui s'appelle Lauren Wesson qui a été amputée d'une jambe après avoir subi ce qu'on appelle un choc toxique. C'est une maladie infectieuse aiguë qui peut concerner les femmes porteuses d'une forme de staphylocoque doré, donc lors de l'utilisation d'un tampon. Donc là, en l'occurrence, c'est bien le tampon qui est en cause. Est-ce que c'est juste dans ce cas de dire que les tampons ne sont pas nocifs, dangereux pour les femmes?
Alors, l'utilisation du tampon a été effectivement associée à ce choc toxique, mais on peut avoir un choc toxique pendant ces règles sans utiliser un tampon. Donc, il n'y a pas de relation de cause à effet entre... C'est pas parce que j'utilise un tampon que je vais avoir un syndrome du choc toxique. Et il est également important de rappeler qu'un tampon doit se porter de 3 à 8 heures et qu'on doit suivre finalement les conseils d'utilisation, qu'il ne faut pas le porter plus de 8 heures.
Taous Merakchi, est-ce que vous faites confiance, vous, à ces marques-là? Est-ce que vous faites confiance à Marine Fab qui est en face de vous quand elle vous dit mes tampons, la marque de tampons pour laquelle je travaille n'est pas dangereuse et on vous dit exactement ce qu'il y a dedans? Est-ce que vous la croyez sur parole?
Sur parole, non, je ne peux pas. En toute honnêteté, parce que j'ai eu des mauvaises expériences, parce que j'ai eu des problèmes de santé gynéco que mon gynéco m'a expliqué, qui étaient liés notamment à l'utilisation de protections jetables. Je n'ai plus ces problèmes depuis que j'utilise des culottes menstruelles. Est-ce que c'est lié? Est-ce que
culottes
c'est
parce menstruelles que... sont des culottes qui absorbent?
Qui absorbent. Donc vraiment, je me peux saigner librement dans ma culotte. J'ai rien qui m'obstrue. J'ai rien qui est vraiment en contact direct avec ma vulve ou dans mon vagin, ce qui est quand même extraordinairement agréable.
Des culottes lavables.
Voilà.
Pas jetables.
Voilà. Et effectivement, il y a le point de vue écolo aussi, mais ça, c'est par rapport à mon vécu à moi. Et comme on le disait tout à l'heure, tout le monde n'est pas sur un même pied d'égalité, tout le monde n'a pas le même mode de vie, tout le monde n'a pas les mêmes moyens, et tout le monde n'est pas mobile, tout le monde... enfin. Pour l'utilisation de la cup pour les personnes très grosses, notamment, j'ai beaucoup d'amis qui m'ont dit, moi, c'est
la
pas possible,
c'est
je peux
la
pas.
La coupe menstruelle.
C'est pas possible non plus pour les personnes qui n'ont pas accès à l'eau courante ou selon le travail qu'on fait. Enfin, si on est en situation de handicap, c'est pas possible non plus. Enfin, je trouve que, comme je le disais tout à l'heure, il n'y a pas de bonne solution pour tout le monde. Il faut que tout le monde soit au courant de ce qui est à disposition. Et effectivement, un maximum de transparence, c'est quand même la moindre des choses. Et qu'il y ait plus d'études scientifiques et médicales autour de la question des règles, que ce soit pour les protections jetables ou autres, parce que c'est quand même incroyable qu'aujourd'hui, l'endométriose, ça mette en moyenne 7 ans à être diagnostiqué, alors que ça touche une à deux femmes sur deux, si ce n'est plus, parce qu'on en est vraiment au début de ces études-là.
On va en parler également, ouais.
Voilà, enfin, il y a plein de choses qui font que il faut qu'on diversifie les études, les débats, les questions, les questionnements, etc. Mais voilà, je comprends la méfiance vis-à-vis des protections jetables et je suis moi-même méfiante et je m'en suis débarrassée. Donc je peux pas jeter la pierre aux gens qui passent à autre chose maintenant. Mais en même temps, voilà, je peux pas non plus jeter la pierre aux gens qui n'utilisent que ça parce que c'est.
Et on est en ligne avec Frédéric Jossinet. Bonjour.
Bonjour.
Ah, pardon, mais un petit bulletin de santé d'abord. Comment ça va? Je rappelle que vous avez des contractions depuis ce matin.
Oui, ça peut arriver à n'importe quel moment maintenant. Donc, c'est vrai qu'on surveille un peu tout ça. Et c'est vrai que le nombre de contractions et la puissance des contractions augmente aussi. Donc, on fait très attention. C'était un peu compliqué pour moi de prendre la voiture aujourd'hui, mais tout va bien. J'ai reçu pas mal de messages justement qui me disaient ça y est. Non, ça y est pas encore, mais ça va pas tarder.
Ouais, restez un petit peu avec nous. Alors, je rappelle que vous êtes une ex-judoka et que vous avez également une passion pour le football. Vous avez intégré la Fédération française de foot et vous êtes chargée du plan fédéral de la féminisation, c'est-à-dire tout ce qui concerne la place des femmes dans le foot.
Exactement. C'est tout ce qui s'occupe du développement du foot féminin. Je suis directrice du foot féminin et puis je me chargeais de tout ce qu'on a appelé l'héritage de cette belle Coupe du Monde qui s'est terminée le 7 juillet.
Il faut le rappeler. Voilà. Alors, est-ce que vous avez, pour revenir à notre sujet du jour, est-ce que vous avez été, vous, en tant que sportive, confrontée à ce tabou des règles pendant les compétitions sportives?
Oui et non, c'est-à-dire oui dans le sens où l'encadrement en général, que ce soit dans le sport de haut niveau, évidemment au judo, mais un peu partout, quand on arrive dans l'encadrement de l'élite, c'est souvent 90-95 exactement d'hommes, y compris nos directeurs techniques nationaux. Et donc, alors entre filles, on en parle. Je pense qu'il n'y a pas du tout de tabou dans le collectif féminin quand on s'entraîne, quand on part à l'étranger, faire des stages, en compète, etc. Mais à partir du moment où, par exemple, on a ses règles pendant une compétition et qu'on est, entre guillemets, pas au mieux de sa forme, qui a un vrai impact physique et psychologique, on a du mal à en parler et des fois, ça peut aussi expliquer des contre-performances. Et ça, c'est quand même assez compliqué et malheureusement... je pense que ça n'a pas changé aujourd'hui.
Vous pensez que ça n'a pas évolué du tout par rapport à l'époque où vous avez été vice-championne olympique en 2004? C'est-à-dire que ça n'a pas changé entre 2004 et 2019, ces questions-là?
Je pense très peu parce qu'on en revient toujours à l'encadrement et que même si aujourd'hui il y a un peu plus de femmes entraîneurs, de femmes qui ont la responsabilité des hauts niveaux, il n'y en a quand même pas beaucoup. Ça veut dire que je pense que c'est un manque aussi d'informations vis-à-vis de l'encadrement, tout simplement. C'est-à-dire que les hommes n'ont pas évidemment pensé à nous poser des questions par rapport à sa méforme et peut-être se dire que soit l'entraînement, soit le jour de la compétition, peut-être que tel athlète avait ses règles et que ça peut expliquer certaines choses. Et c'est la même chose sur parce qu'il y a le moment des règles bien évidemment, mais aussi le cycle menstruel avec plusieurs phases pendant on va dire de 24 jours à peut-être 35 jours. Et il y a pas mal de du coup comportements physiques, psychologiques de la part des athlètes que l'on pourrait en tout cas expliquer, et surtout même sur la préparation globale pour atteindre les performances aujourd'hui qui, à mon avis, et j'ai posé un peu la question autour de moi, ne sont absolument pas prises en compte. Il y a eu quelques études en Angleterre, il y a eu une étude qui est sortie aux États-Unis avec justement une vraie prise en compte de cycles menstruels par joueuse sur l'équipe américaine. C'est vrai que nous en France très clairement on est on va dire à la rue quoi. Je pense qu'on est très très loin de tout ce qui fait et du coup il y a du coup une méconnaissance de l'impact du cycle menstruel sur les performances des athlètes qui est assez phénoménal et je pense qu'il faudrait un peu justement se pencher sur la question.
Dominique Mesmin, une fois qu'on a fait ce constat-là, assez dur, assez sévère, comment est-ce qu'on en sort de ce qu'on est en train de décrire aujourd'hui, de ces tabous, de cette désinformation, de cette difficulté à nommer les choses, à dire j'ai mes règles et à pouvoir avoir les bons traitements, notamment chez le médecin, on va reparler de l'endométriose tout à l'heure. Comment est-ce qu'on sort de ça?
On sort de ça en communiquant au maximum et en jouant la transparence. Il faut absolument qu'il y ait que ça devienne une parole décomplexée. Il faut que les fabricants de serviettes jouent la transparence. Je reviens là-dessus, c'est hyper important. Aux USA, les fabricants sont obligés de publier les composants. En Europe, non. Donc, ils ne le publient pas. Nana et les autres, ils disent qu'ils vont progressivement publier les composants qu'il y a sur leurs produits, avec des termes qui sont très génériques, qu'ils ne veulent pas dire grand chose, synthétique, polymère, etc. Donc on peut pas ça n'aide pas non plus à créer une relation de confiance et ça n'aide pas à dissiper certains tabous. Voilà, donc je pense qu'il faut agir de manière à 360 degrés pour changer les choses.
Frédéric Jocinet, est-ce que c'est aussi un manque de volonté politique qui permet de pas pouvoir aller plus loin et d'être dans cette situation qui est assez tragique que vous décrivez? Est-ce qu'il faut s'adresser davantage aux politiques, selon vous?
Je pense qu'il faut... Alors oui, je pense que de toute façon, sans engagement et sans impulsion politique, c'est quand même difficile aujourd'hui en France de parler de certains sujets et puis surtout, au-delà d'en parler, de s'en occuper et de s'en préoccuper. Donc, bien évidemment, je pense qu'en effet, les politiques doivent s'emparer du sujet, mais je vais encore revenir sur la même problématique que l'encadrement. L'encadrement est aujourd'hui à 80%, 90% sont des hommes, et je pense qu'aujourd'hui, nos politiques, il y a quand même beaucoup, beaucoup aussi d'hommes, et que, naturellement, j'allais dire, voilà, c'est pas leur première préoccupation. Donc, je pense qu'il y a un peu... et puis il n'y a pas que les politiques, je pense aussi voilà, je pense que c'est une question de société, d'ouverture aussi. Et puis il faudrait que il y ait peut-être plus de jeunes femmes notamment qui portent ce sujet. Et la preuve, j'entendais tout à l'heure que de parler des règles à 12h30, c'est
dégueu, compliqué, paraît-il.
C'est dégueu, etc. et tout, alors que sans règles, sans cycle menstruel, on fait pas d'enfant, il y a pas une continuité, etc., etc. Donc le sujet, il est bien plus profond que ça, et c'est pas que sur le moment des règles, bien évidemment. Je pense qu'il y a un vrai sujet quand même à apporter au plus haut niveau, évidemment, par les politiques.
Merci Frédéric Jossinet, on vous laisse retourner à votre fin de grossesse. Portez-vous bien, puis tenez-nous au courant.
Bien sûr.
Merci beaucoup. Marine Fabre, je vous voyais réagir quand on parlait de la question politique. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit et qu'effectivement, les différents ministres concernés, que ce soit ceux de la santé, de l'égalité des femmes, ne vont pas assez loin? Je pense par exemple à la gratuité des protections périodiques dans les lieux publics. Ça n'existe pas en France aujourd'hui. C'est ce qui fait qu'on a ce qu'on appelle de la précarité menstruelle.
Je reviens simplement sur le fait que vous disiez, Dominique Mesmin, que les composants aujourd'hui ne sont pas publiés sur nos sites internet. Ils le sont sur le site de nana.fr.
Vous voulez que je vous donne des exemples?
Et sur je tenais simplement à clarifier le point. Et ils sont également
ils,
sur
ils
nos,
ne le sont pas dans le détail. C'est faux.
Dominique Mesmin, oui, continuez.
Ils ne le sont pas dans le détail. Il y a des termes très génériques. Je vais vous prendre des exemples que j'avais notés.
Je vois que vous avez.
J'ai juste un feu.
Regardez notre site internet avec attention.
Parce que par exemple, il y a des polymères. Alors les polymères, on vous dit que ça peut exister de manière naturelle ou synthétique, mais ça peut être aussi bien du plastique que présent dans le plastique que votre ADN. On vous dit sur les fiches produits qu'on utilise les mêmes produits qui servent à la confection des vêtements. Alors les vêtements, d'accord, super, textile, mais lesquels? Est-ce que c'est du chanvre bio? Est-ce que c'est des tailleurs Chanel? Est-ce que c'est du t-shirt fait à Sihanoukville ou à Dhaka à 75 centimes d'euros avec des produits chimiques? C'est un peu fumeux quand même. C'est très. D'ailleurs, ça a été épinglé par différents rapports, 60 millions de consommateurs et d'autres, etc. C'est quand même très générique, c'est très 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 large. Voilà.
Marine Fabre, vous avez le droit de répondre. Hein.
Notre
Parce
objectif, c'est d'expliquer.
Votre leitmotiv, c'est oser tout, mais vous osez vraiment pas publier la liste des composantes.
La publication, elle est faite et vous savez très bien qu'elle est encadrée et que on ne se permettrait pas de mettre n'importe quoi. En tous les cas, nos produits sont sûrs.
Vous mettez rien.
Et ça, je ne peux que le répéter. Toutes les matières qu'on utilise sont validées par des experts et des laboratoires indépendants. Toutes les matières qu'on utilise sont testées dermatologiquement. On fait près d'un million de contrôles tous les ans sur nos chaînes de production.
Ce n'est pas publié? Pourquoi est-ce que vous indiquez que vous allez progressivement lister sur les sites internet, sur votre site et sur les emballages, les composantes? Progressivement, ça veut dire quoi? Ça veut dire à Noël, vous avez besoin qu'on vous file un coup de main? Qu'est-ce que vous pensez qu'on va faire? Ça,
laissez-moi vous expliquer.
Trois ans, c'est quand même dingue. Si c'est vraiment référencé, si c'est transparent, la liste des composants de vos produits, ça prend pas très longtemps de les mettre sur un site internet.
Alors sur le site internet, ils y sont. Sur nos packaging,
je les ai pas trouvés. Je dois être un peu
sur
maladroit.
Sur nos packaging, ils y sont effectivement progressivement. Maintenant.
Progressivement.
Et je vous explique pourquoi.
Expliquez-moi la progression.
Brièvement, parce que je voudrais vous soumettre des commentaires
d'auditeurs. Parce qu'on ne peut pas assurer qu'aujourd'hui nos clients n'est pas dans leur réserve des anciens packaging. Mais sachez qu'aujourd'hui, dès qu'on imprime un packaging, dès qu'on vend un produit, la composition y est.
Ça n'a pas l'air d'aller très très vite quand même. Hein.
On va donner la parole à Edith qui nous écoute et qui a posté cette question sur Twitter. Moi, je suis ravie d'entendre parler de ce sujet. J'ai 62 ans et j'aurais aimé que l'on traite ce sujet plus tôt. Merci Edith. Céline, 43 ans. J'ai 43 ans, pardon. Et à ce jour, avec mon conjoint, je n'arrive toujours pas à en parler librement. Elle n'arrive pas à en parler avec son mari, visiblement, Taous Merakchi. Est-ce que une émission, comme on est en train de la faire, là, ça peut servir à changer les représentations, ou est-ce que ça ne sert à rien tant que les mentalités évoluent pas dans les foyers, notamment?
C'est les deux, et ça se fait avec les deux. Et c'est ce genre d'émission qui fait évoluer les mentalités aussi, parce que potentiellement, il y a deux personnes qui écoutent. Il y en a une qui va se dire « Ah, c'est cool », et l'autre qui va dire « Ah, c'est dégueulasse ». Et là, vont se regarder en disant ah bah tiens, on n'est pas d'accord sur la question. Viens, on en parle et on essaie.
On n'est pas encore surinformé sur les règles. C'est le sens de ma question.
Non.
Alors, une dernière question qui a été posée par Amélie sur le site de France Inter. À quand des jours prévus dans le milieu du travail pour rester chez soi ou faire du télétravail quand on est en période de règles? Donc, ça, c'est une question un peu délicate. Le congé menstruel, ça existe dans certains pays. Ça consiste à pouvoir rester chez soi en étant rémunéré ou non quand on a des règles douloureuses, compliquées. Ça divise les féministes.
C'est très compliqué. Ça existe dans certains pays. Il y a un projet de loi des députés italiennes. Il y a 4 députés italiennes qui œuvrent dans ce sens aussi. Mais on n'arrive pas à calculer, à mesurer la douleur. C'est impossible. Donc, si vous voulez, dans l'espace de l'entreprise, dire j'ai des règles douloureuses, c'est pas forcément facilement mesurable par une DRH. Et souvent, les femmes, on les qualifie de feignantes, etc. ou autre. Donc, souvent, elles osent pas prendre des congés. Et inversement, certaines personnes plutôt féministes vont vous dire ça reviendrait encore à reconnaître, à exclure une fois de plus, en plus, admettons, de la grossesse ou autre, etc., les femmes. Et donc, de manière un peu insidieuse, peut-être à faire en sorte que le patron de la boîte soit plus enclin à embaucher un homme. Voilà. Donc, c'est compliqué.
C'est très
compliqué.
Taous Marikchi, en un mot?
Ouais, alors, juste rapidement, j'ai entendu parler d'entreprises qui proposent des congés supplémentaires, en plus de ceux qui sont dans leur contrat, que les employés peuvent choisir de prendre ou non, homme ou femme, sans avoir à justifier de la raison de leur absence. Et ça, je trouve que c'est une solution qui est bonne pour tout le monde, du coup, parce que potentiellement, ça peut être quelqu'un qui a une maladie chronique ou quelqu'un qui a ses règles, on ne sait pas, on s'en fout, ça ne nous regarde pas. Mais en tout cas, d'avoir X jours par mois qu'on peut prendre ou pas sans avoir à justifier du motif, je pense que c'est une solution qui est quand même assez intéressante pour ne pas stigmatiser et pour pas se retrouver face à quelqu'un, un employeur qui dit non seulement elle risque de me faire un bébé, mais en plus elle risque d'avoir ses règles tous les mois et de me faire chier. Donc,
Alors, c'est la fin de ce débat. On se retrouve dans un instant pour un autre micro-débat.
Le débat de midi sur France Inter.
Ah, c'est ma question rituelle pour ce mois d'août. Je voudrais vous demander à tous les trois avec quelle personnalité vivante ou disparue vous rêveriez de croiser le fer, de débattre. Dominique Mesmin. Très vite.
Dieu le Père.
Et en toute simplicité.
Je lui demanderai pourquoi est-ce que la mise en application de son programme a merdé.
Taous Merakchi.
Alors pardon, j'ai réfléchi vraiment pendant plusieurs jours à la question, je n'ai pas trouvé. Je pense que je monte tout de suite dans les tours et en fait je vais passer à la bagarre immédiatement, donc je préfère pas.
Marine Favre.
Bien plus léger.
Vous avez débattu avec Dominique Mesmin, c'était déjà pas facile. Hein, mais...
Bien plus léger que tous les sujets qu'on a abordés. Eh ben, les réalisateurs de Game of Thrones, mais qu'est-ce qu'ils nous ont fait?
C'est la fin de ce débat. Merci à mes invités. Demain, on parlera d'un sujet moins compliqué, en tout cas moins sanglant. Pardon, j'étais obligée de la refaire une deuxième fois. On se demandera si les journalistes sont obligés d'être objectifs. Vous pouvez poster dès maintenant vos réactions, vos commentaires et vos questions sur la page du débat de midi sur franceinter.fr et sur Twitter, hashtag le débat de midi.